Et c'est l'heure de la chronique sport business avec notre ami Ray Lalonde. Bien le bonsoir, Ray.
Bonsoir, Mario.
Et on va parler, bien sûr, parce qu'il y a eu, il y a été beaucoup question de baseball cette semaine avec les deux matchs Blue Jays Brewers. La chronique de Buster Olney, un chroniqueur de ESPN qui dit avoir entendu en haut lieu que c'était comme, les gens avec qui il parlait du dossier de Montréal, il y avait l'impression qu'il y en a qui connaissaient pour acquis déjà que ça avait été décidé en haut lieu sans que ce soit annoncé que Montréal, sa place, on attend de lui donner. Et c'est le début de la saison du baseball majeur également. Donc, on va essayer de rassembler tout ça. Premièrement, tu étais étonné de voir l'enthousiasme et la confiance affichée par Steven Brothman, qui rêvait déjà d'un scénario de premier lancé.
Moi, j'ai été très heureux du dénouement de la semaine. C'est encore une fois une autre prestation positive de la Ville de Montréal, des partisans de baseball. Ces sports-là, comme le soccer puis le baseball, entre autres, là, je trouve qu'il y a énormément de passion puis d'énergie chez la population. Alors, moi, j'ai aucun doute qu'une équipe de baseball va être aimée et adorée et le retour des expos est très attendu. Mes doutes, moi, personnels, se situent plutôt au niveau de... Une fois que quelques saisons auront passé, Mario, il y a un moment donné, dans toutes les disciplines et tous les produits de sport, spectacle, divertissement, un essoufflement, une certaine fatigue, une normalisation. Et c'est là qu'on va faire face à la vraie réalité de 81 matchs.
Après 5 ans, genre?
Peut-être un peu moins que ça aujourd'hui. La consommation est différente aujourd'hui, Mario. Cette génération-là ne consomme pas le sport, pas juste le baseball, le sport, de la même façon qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, qu'il y a 25 ans. Bon, alors, cette semaine, c'était très positif. C'était un lundi-mardi, puis c'était Brewers contre les Blue Jays. C'était certainement pas Yankees Expo. Bon, déjà.
Et les Blue Jays ne sont pas une équipe de championnat en ce moment. Là,
non, il y a moins de visages connus que les Incarnation puis les Batista.
C'est un acte de foi, là, puis on va se mouiller, on va se
Et on l'a prouvé pendant 4-5 ans, fait qu'on était un peu fatigué un peu de ça.
Ouais.
Mais c'est un lundi-mardi que j'appelle gonflé. Parce qu'un vrai lundi-mardi, au mois de mars-avril, même les expos impliqués, c'est des foules de 15 à 18 000 qu'on va voir. Ça sera pas des 25-22. C'est correct aussi, là. On peut pas mesurer sur deux soirs. Mais là, il y a une rareté, mais dans une vraie saison régulière, il y aura pas de rareté. Il va y avoir 81 matchs à domicile. On va les choisir. Les Canadiens ne sont pas complets à tous les matchs cette saison, ni l'an passé, ni l'année d'avant. C'est parce qu'à un moment donné, les gens font des choix. Lorsque ce sont les Bruins ou les Capitals ou les Maple Leafs, bien sûr, on est complet. Mais quand ce sont les Panthers ou les Hurricanes, tu comprends, ou le Wild, on l'est moins. C'est normal parce qu'on ne perçoit pas le même engouement et la même profondeur en termes d'émotion pour assister à tous les matchs. On est fan quand même, Mario, mais on est bien assis à la maison confortablement. On doit accepter ça. Ce qui veut dire que il va falloir qu'on soit capable de cultiver des multiples partisans de baseball. Et parmi ceux-là, une génération qui, depuis 15 ans, Mario, en ont pas vu de leurs yeux des expos. Alors, tu sais, moi, j'ai deux garçons. Il y en a un qui a à peu près 15, l'autre a 19. Bien, ils n'ont jamais vu jouer les expos. Alors, il faut les convaincre, les convertir. Tout est possible. Alors, là-dessus, je change ma question. Je me réoriente, Mario, sur l'aspect que c'est la saison de baseball qui a commencé cette semaine. Et là, ce que je remarque déjà au niveau économique, les salaires moyens des joueurs de baseball sont en baisse pour la deuxième année consécutive. Pourtant, le baseball demeure le seul sport parmi les quatre grands majeurs, cinq majeurs avec la MLS, où il n'y a pas de cap salarial, pas de plafond. Il y a de la liberté, puis de la souplesse, puis des seuils.
Taxe de luxe, si exact. Tu dépasses 190, 200.
Ben, 206 cette année.
À 206 millions.
Tu comprends-tu? Alors, c'est énorme. Mais il y a seulement trois équipes à date avec un effectif de 40 joueurs, Yankees, Red Sox et Cubs, et c'est les Red Sox qui sont en tête, qui prévoient le dépasser là, en termes du début de saison. Et ce que je te dis aussi, Mario, c'est qu'il y a quand même 11 équipes dans le baseball majeur en début de saison, avec leur effectif actuel de 40 joueurs, qui sont 60 millions de moins que le seuil, et 8 équipes en bas de 100 millions. Ça veut dire que si tu as un seuil de 206 avant que la taxe entre en effet, mais tu as 8 équipes qui dépensent en bas de 100. Énorme disparité dans les salaires. Ce qui veut dire que, la conclusion pour moi, plusieurs équipes dans le baseball, le temps que la convention collective se termine en 2021 puis on en renégocie une nouvelle, il y a plusieurs équipes dans le baseball, Mario, qui se contentent de la médiocrité, qui se contentent de recevoir un partage de revenus, d'être rentable, entre guillemets, mais n'offre pas vraiment le maximum des capacités pour aller jusqu'au bout et gagner. Alors, tu sais, là, je suis en train de te faire une lecture complète, là. Mm-hmm. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand on... Moi, je trouve que la saison de baseball a débuté un peu silencieusement cette semaine. Tu sais, j'ai pas vu un gros boom comme le premier jeudi de la NFL en septembre, tu sais. Puis, évidemment, le premier jeudi ou mardi ou mercredi de la Ligue nationale de hockey.
Mais ça serait différent s'il y avait un buzz autour des Blue Jays, t'es d'accord? Là, les Blue Jays, actuellement, sont pas une équipe qui aspire au championnat. C'est exact. Sûr qu'il y a plus d'engouement. Puis ça, dans tous les marchés, tu peux pas échapper à ça. Même si, puis on en a déjà discuté, c'est... Ça serait peut-être un piège. C'est sûr que la victoire vient t'aider à vendre des billets, vient t'aider à faire en sorte que les amateurs aient envie de s'identifier à ton organisation. Mais si tu cultives juste une clientèle qui n'attend que des victoires, ça peut te péter d'en face. Faut que t'ailles ailleurs aussi.
Et voilà. Et d'ailleurs, j'ai lu des observations hier de Derek Jeter, qui est le nouveau propriétaire des Marlins depuis un an, et qui déclare hier que le focus des Marlins cette saison, c'est du plaisir dans le stade, puis l'expérience client, et pas mal moins sur la victoire. Bon, là, tu vas me dire, ouais, mais ils sont pas placés pour gagner non plus beaucoup de matchs. C'est vrai. Mais c'est un des premiers qui ouvertement déclare que c'est bien plus important que le partisan consommateur, homme, femme, jeune, vieux, ait du plaisir dans son expérience que de uniquement se fier à gagner des matchs. C'est sûr que ça compte pour beaucoup, mais à la fin, les gens doivent avoir du plaisir à envisager aller supporter une équipe de baseball 81 fois au cours d'une saison.
Faut que t'aies du plaisir à aller à la messe, peu importe la qualité de l'homélie, finalement.
T'as tout compris, Mario.
C'est à peu près ça.
Puis je termine en disant une chose au sujet des Red Sox, là, qui vont être encore les meneurs. Cette année, l'année passée, les Red Sox ont dépensé 233 millions de dollars. Alors ça, c'est beaucoup d'argent. Mais tu sais qu'en pénalité l'an passé, puis il y a toutes sortes de mathématiques là-dedans qui font en sorte que ça fait combien d'années que tu as dépassé le seuil versus non. Bien, c'est juste 12 millions de plus qu'ils ont payé l'an passé pour se payer un club qui a gagné la Série mondiale. Ils ont eu des choix au repêchage qu'ils ont perdu. Ça fait partie des pénalités, Mario. Mais honnêtement, Red Sox, bien géré, bien dirigé, parce qu'ils se disent, sais-tu quoi? On va la prendre, la taxe de luxe puis la pénalité. Mais on gagne une Série mondiale encore une fois. Mm-hmm. Et ils étaient dominants. T'as vu la saison qu'ils ont eue. Alors, ouais. Des fois, trop dépenser, c'est aussi, ça peut se faire en bien dépensant et gagner un titre.
Un n'empêche pas l'autre, je suis tout à fait d'accord et il y a plusieurs preuves. Si on pouvait recenser toutes les équipes qui ont eu du succès avec des masses salariales, disons, dans la moyenne dans les 10 dernières années, mais comme je le dis dans tous les sports, c'est bien rare que le carrosse ne se transforme pas en citrouille pour les équipes qui tentent de devenir des équipes Cendrillon. À un moment donné, le talent, les moyens, le budget, ça te rattrape et c'est pour ça qu'il faut que tu cultives une espèce de... Faut pas que ça frustre ton marché au grand complet parce que tu gagnes pas la Série mondiale à tout bout de champ.
De là, l'équilibre entre l'expérience, entre le plaisir, entre l'amour de ton équipe et les victoires. Bien sûr.
Maintenant, on va juste un mot sur le prix. Tu parlais du Canadien, c'était pas toujours plein. Ils vont en tout cas possiblement rater les séries, à moins qu'ils gagnent leurs 4 derniers matchs, puis Caroline, Columbus vont trébucher. C'est un manque à gagner qu'on avait probablement prévu du côté des prévisions budgétaires du Canadien de Montréal. Quand on dit au DG, ben, je te permets de faire un reset, c'est un des risques à courir, mais
ouais.
Pour une troisième fois en 4 ans.
Oui, mais Mario, c'est un manque à gagner. Puis normalement, une équipe professionnelle ne budgète pas dans le budget habituel régulier, les séries éliminatoires. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque. Donc là, si jamais tu fais les séries, tu te qualifies, ça, c'est de l'argent qu'on n'avait pas anticipé, on est très heureux. Mais cependant, si tu avais budgété des séries, puis malheureusement, tu ne les fais pas, alors tu laisses de l'argent sur la table. Ça demeure quand même 3 fois en 4 ans, et je le souligne parce que les Canadiens sont une des équipes les plus rentables. C'est une des équipes avec le plus haut billet moyen dans le hockey professionnel. C'est une des équipes qui a la plus grande foule. Parce que le Centre Bell avec le United Center à Chicago est deux arénas les plus grandes. Alors, quand tu ne fais pas les séries, il y a beaucoup de gens qui n'achètent pas de billets. Il y a beaucoup d'économies locales. Les hôtels, les restaurants, les bars et les produits dérivés attachés aux Canadiens. Puis on l'a dit, à peu près une fois par année, tu laisses beaucoup d'argent sur la table. Ça ne veut pas dire que les Canadiens ils vont perdre de l'argent, là. Au contraire.
Non, non.
Mais au lieu d'en faire X, tu pourras en faire X plus 2, X plus 3, X plus 4. Et quand on sait qu'un match habituel en série peut rapporter... dépendant des clubs, entre 4 et 5 millions, ben 2 matchs, 3 matchs, Mario, ça monte vite. Et c'est dommage, encore une fois, pour le côté financier du club.
Petit sprint sur des initiatives de globalisation. D'ailleurs, laisse-moi revenir au baseball. Il va y avoir des matchs, t'arrives de Londres cette semaine, il va y avoir 2 matchs entre les Yankees et les Red Sox à Londres. J'aurais dû te parler de ça tout à l'heure, ouais. C'est intéressant. Pourquoi toujours Londres pour la NFL?
C'est une bonne question, Mario, mais je te dirais... D'abord et avant tout, c'est peut-être une des métropoles les plus attirantes pour les sports nord-américains à cause de la langue. Donc, c'est déjà plus facile à Londres que d'aller à
pas
Paris.
De barrière, ben
exactement.
Oui.
Pour les joueurs, pour juste vendre la première impression. Mais surtout, Londres a un très beau stade. Le stade olympique s'appelle le London Stadium. On parle pas de Wembley Stadium, on parle pas du O2, on parle du London Stadium, puis qu'ils vont le convertir en stade de baseball. Et le baseball majeur a compris que si on allait faire une expansion un jour, pas une expansion d'équipe, mais une expansion de notre marque, fallait envoyer les deux géants. Et c'est ça que les Yankees et les Red Sox vont faire. Je pense que c'est le 29-30 juin prochain. Ça va être extraordinaire pour les fans d'Europe. C'est la première percée officielle de Major League Baseball avec des matchs réguliers en Europe.
Parle-moi du super magasin qu'ouvre la NBA en Chine, Ray.
Ben là, écoute, la NBA, comme tu le dis, puis on s'en parle souvent, Mario, n'arrête jamais son expansion globale, mondiale, sa conquête. Là, j'ai annoncé récemment là, qu'il y avait des matchs prévus pré-saison en Inde, cette année en 2019. Ben, hier, ils ont annoncé qu'ils vont ouvrir un magasin à pied carré d'à peu près 1200 quelques dans le centre-ville de Shanghai, qui va être un peu converti comme un aréna de basket. Un plancher de bois, évidemment, un écran géant gigantesque, un gros logo NBA devant la rue. Encore une fois, c'est difficile de prendre un match de la NBA puis l'emmener là régulièrement, mais tu peux emmener un peu la virtualité de ces ligues-là et les mettre en permanence dans ces villes-là où ils créent une conversion vers des partisans consommateurs à l'année durant du produit NBA.
Ray, c'est tout le temps qu'on a pour ce soir. On reviendra la semaine prochaine ou éventuellement sur des équipes de la Ligue nationale de hockey qui vont aller jouer également outre-mer. Merci beaucoup.
Merci, Mario.
Un bon week-end à toi. Et dans quelques instants, place au soccer avec Vincent Détouche sur l'Impact à Kansas City demain.